infos sur VOA Afrique.
Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Les titres tout d'abord. Kinshasa vient d'accueillir le premier forum national du développement de l'industrie et du redressement productif.
Ce salon de l'industrie, organisé sous la place Gare Centrale située dans la commune de la Gombe à Kinshasa, a permis aux industries et compagnies congolaises de faire connaître leurs produits auprès du grand public.
D'autres précisions avec Béro Matanda de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Au Mali, 5e édition des Journées des Banques.
Cette 5e édition sera une occasion pour l'ensemble des 14 banques du Mali et établissements financiers de s'ouvrir à tout le monde avec des stands d'exposition, des échanges autour des produits banquiers.
Kassim Traoré nous en dira davantage depuis Bamako. Et selon les dernières prévisions de la Banque mondiale, la croissance de l'Afrique subsaharienne ralentira autour de 4% en 2015 au lieu des 4,5% enregistrés en 2014. Kinshasa vient d'accueillir le premier forum national du développement de l'industrie et du redressement productif. La République démocratique du Congo, qui comptait 9500 industries en 1960, en compte moins de 300 en 2015. Pendant trois jours, des experts ont donc réfléchi à la relance de ce secteur. Les industries et petites et moyennes entreprises, profitant de cette occasion, ont exposé des produits à 100% congolais. Je vous propose de suivre ce reportage de Béro Matanda de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Ce salon de l'industrie, organisé sous la place Gare Centrale située dans la commune de la Gombe à Kinshasa, a permis aux industries et compagnies congolaises de faire connaître leurs produits auprès du grand public.
Nestlé, c'est comme vous pouvez le voir ce matin, c'est une usine que l'on a à Kingabwa et qui produit la gamme Magie. Alors la gamme Magie, ce sont les petits bouillons pressés que toutes les mamans utilisent dans leur cuisine aujourd'hui.
On a ici le vin de Bissap. Le bissap qui sont des fleurs de l'oseille. Et c'est riche en protéines et minéraux. Et là, on a le jus de tangawis qui stimule la digestion et soulage les maux de dos. On a ici la citronnelle, les bouloukoutou qu'on peut prendre, qu'on prend comme thé, qui traite aussi la toux et les grippes aussi. Ici, on a un cocktail de fruits, un mélange de maracuja, matongé, mangue, et c'est très bon. On fait aussi des jus de moringa, il y a aussi la poudre. Le jus de moringa qui traite aussi 350 maladies, comme aussi la poudre.
Je suis venue exposer notre matériel, les braseros. C'est vraiment très économique, les braseros Jiko Mamou. Ça ne consomme pas beaucoup de braises parce qu'il y a l'argile.
Le vœu des industries et compagnies congolaises est d'être appuyé par le gouvernement.
On veut bien que le gouvernement puisse nous aider, nous appuyer dans ce qu'on est en train de faire et de nous donner des machines pouvant nous aider à fabriquer tout ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est pas facile de faire, de travailler avec traditionnellement. On utilise plus, comme à Kinshasa déjà le courant n'est pas stable, des fois on utilise des morceaux de bois pour pouvoir faire ça et tout. C'est pas facile pour nous. Et on attend au gouvernement de changer un peu nos conditions de travail.
Ce que j'attends de ce salon, ce sont des grandes directions, une feuille de route claire sur comment moi, demain, Nestlé Congo, je peux encore grandir plus vite, faire face aux obstacles pour finalement continuer à participer au développement et à la croissance endogène du pays.
Du côté du gouvernement de la République, l'engagement est pris pour réorganiser l'industrie congolaise. Germain Kambinga est ministre national de l'Industrie.
L'accompagnement du gouvernement est acquis. Il nous appartient dorénavant, ministère de l'Industrie, de traduire tout cela en propositions concrètes faites au président de la République à travers le chef du gouvernement pour voir dans quelle mesure et avec toute l'abnégation et l'engagement requis, nous allons arriver à faire de l'industrie, de la réindustrialisation de la République démocratique du Congo une priorité nationale. C'est un engagement que nous avons pris et c'est notre responsabilité en tant que ministre de l'Industrie.
Ce salon de l'industrie a duré trois jours.
Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique. Suite à la crise politique de 2012, les banques maliennes ont perdu 18 milliards de francs CFA. Malgré le retour à l'ordre constitutionnel, aucune banque n'a été indemnisée par le gouvernement malien. L'Association des professionnels des banques et établissements financiers compte soulever le problème lors de la célébration de la 5e édition des Journées des banques, dont le thème est le financement des petites et moyennes entreprises, défis et opportunités. Cette manifestation qui réunit les 14 banques du Mali est prévue les 24 et 25 avril à Bamako. D'autres précisions avec Kassim Traoré.
Cette 5e édition sera une occasion pour l'ensemble des 14 banques du Mali et établissements financiers de s'ouvrir à tout le monde avec des stands d'exposition, des échanges autour des produits banquiers. Moussa Alassane Diallo, président de l'Association des professionnels des banques et établissements financiers du Mali.
Le premier objectif, c'est assurer la promotion, la vulgarisation des produits et services bancaires. Comme nous l'avons dit, nous sommes dans un pays dominé par l'analphabétisme, donc il faut vraiment des actions de communication pour faire connaître les produits et les services bancaires de l'ensemble des banques du Mali. Il est temps que nous ouvrons les portes des banques, que nous puissions nous faire connaître, expliquer, informer, sensibiliser, donc même éduquer financièrement les populations. Extrêmement important d'assurer un taux élevé de bancarisation pour arriver donc à l'inclusion financière.
Le choix du thème de cette année, financement des petites et moyennes entreprises, défis et opportunités, n'est pas un fait de hasard.
Pourquoi le financement des PME, défis et opportunités pour 2015? Parce que le Mali sort d'une profonde crise à la fois politique, institutionnelle et sécuritaire, parce que le cœur du tissu économique malien est dominé par les PME. Et 80% donc de ces PME sont aussi dans le secteur informel. Donc le défi aujourd'hui qui est lancé aux banques, c'est de sortir de leur schéma, de leur modèle économique, tous ces instruments financiers qui permettent aux banquiers d'apprécier les risques. Ces instruments financiers ne sont pas adaptés à l'analyse du risque des PME au Mali, parce que les PME au Mali sont essentiellement dans le secteur informel.
De nos jours, toutes les banques maliennes sont retournées au nord, excepté la région de Kidal.
Depuis pratiquement le mois d'août 2013, nous avons toutes les banques qui étaient au nord sont retournés au nord. Nous avons repris nos activités à l'exception de Kidal, où il n'y avait qu'une seule banque, la BMS. Et cette banque a fait l'objet d'attaques avec mort d'homme, les soldats de la MINUSMA, les soldats sénégalais de la MINUSMA, qui ont été tués au cours de l'attaque de cette banque. Donc depuis, l'agence BMS de Kidal a été fermée et elle n'est pas encore réouverte. Qu'il s'agisse de nos agences à Gao, Tombouctou et même Mopti, donc toutes ces agences-là sont opérationnelles.
Avec la crise de 2012, les banques maliennes qui avaient des agences dans les régions nord du Mali ont perdu 18 milliards de francs CFA.
Les banques ne sont pas indemnisées. Et personne n'est d'ailleurs indemnisé. Toutes les entreprises qui ont fait l'objet d'attaques lors des événements de 2012, aucune entreprise n'a encore été indemnisée. Moi, je suis en même temps aussi vice-président du patronat, le Conseil national du patronat. Cette question est toujours posée. Pas plus que la semaine dernière, nous avons adressé un courrier au ministre de la promotion des investissements et du secteur privé pour rappeler cette question-là. C'est que pendant la transition, il y a une loi d'indemnisation qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Mais à la date d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, cette loi d'indemnisation n'a jamais fait l'objet d'un décret d'application. Jamais. Ce décret d'application n'existe pas. Il n'a pas été pris par le gouvernement.
Cette question d'indemnisation sera abordé lors de la 5e journée des banques du Mali qui aura lieu dans la capitale malienne, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Ici Washington, vous suivez le magazine hebdomadaire de l'économie. Au micro, Camille Gros-Didier. Selon les dernières prévisions du groupe de la Banque mondiale publiées lundi à Dakar, la croissance de l'Afrique subsaharienne va ralentir autour de 4% en 2015 au lieu des 4,5% enregistrés en 2014. Un chiffre loin du pic de croissance de 6,4% enregistré au cours des années 2002 à 2008. Ce recul s'explique largement par la baisse des cours du pétrole et des autres matières premières, affirme la dernière édition d'Africa's Pulse, publication semestrielle du groupe de la Banque mondiale qui analyse les perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne. Ce rapport a été présenté dans le cadre des réunions de printemps Banque mondiale, Fonds monétaire international, ce week-end ici à Washington. Elles rassembleront les ministres des Finances et du Développement du monde entier. Et entre-temps, toujours concernant la baisse des prix des matières premières, eh bien, Genève accueille cette semaine la 6e édition du sommet sur les produits de base de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED. Selon Chris Thérault, économiste à la CNUSED, ce sera l'occasion d'étudier l'impact de la chute des prix du pétrole, mais également du minerai de fer, sur les économies africaines. On l'écoute.
Les impacts sont déjà assez sévères. On a vu dans les deux grands pays, en Angola et Nigeria, une contraction assez importante des budgets publics d'abord. Et ça a un impact éventuel sur leurs dépenses sociaux et les revenus qu'ils puissent mettre de côté, épargner pour des dépenses, des projets éventuels aussi.
Par exemple, les infrastructures.
Par exemple, les infrastructures, oui, et aussi pour équilibrer les dépenses sociales au cours du temps. Donc, c'est tout à fait normal que les cours de pétrole varient d'une année à l'autre, mais c'est important pour ces programmes sociaux de pouvoir équilibrer ces dépenses au cours du temps. Et selon la CNUSED, c'est donc important que pendant les périodes de boom, que les pays puissent épargner au moins un peu pour pouvoir réussir à équilibrer ses dépenses d'une manière régulière.
Alors, il n'y a pas que les prix du pétrole avoir connu des bas. Il y a également, par exemple, le minerai de fer qui a perdu jusqu'à 50% de sa valeur, ou encore les prix du caoutchouc, 37% de leur valeur. Pour l'Afrique, qui est toujours tributaire des matières premières, c'est un poids très lourd à porter.
Absolument. La chute la plus dramatique, c'est toujours avec le pétrole, le minerai de fer. Pour les produits de base en général, notre index montre une chute d'environ 15%, qui est important, mais qui n'est pas aussi dramatique que ce qu'on a vu avec le pétrole. Et donc, on est quand même dans une situation où les pays qui ne sont pas producteurs du pétrole ont quand même une marge qui n'a pas été le cas lors des chutes précédentes. Donc, ce dernier cycle qu'on appelle le super cycle, on a remarqué une période assez longue de hauts prix qui représente une opportunité pour ces pays de bien régler leurs comptes pour pouvoir se préparer pour l'éventuelle baisse des prix. À notre avis, on a commencé à voir cette baisse de prix en ce moment, mais ce n'est pas une chute généralisée. On a vraiment vu une chute assez dramatique avec le pétrole, mais pour les produits de base en général, ça a été un peu plus modéré.
On conseille aux pays africains tributaires des matières premières de diversifier leurs économies. Est-ce qu'on commence à voir une ébauche de cette diversification?
On commence, oui. Bon, lors du dernier boom, la gestion des revenus de ces produits de base n'a pas été le meilleur, disons. Et cette fois-ci, on a remarqué une amélioration de la gestion de ces revenus, surtout en Afrique. Et donc, on voit, par exemple, au Nigeria, un Sovereign Wealth Fund qui, bon, il a ses problèmes, bien sûr, mais c'est un exemple à l'Angola aussi de les leçons que ces pays puissent prendre de la dernière expérience, il y a trois décennies, pour pouvoir se préparer pour l'éventuelle baisse des prix.
Chris Thérault, économiste à la CNUSED, il était joint à Genève. Vous êtes à l'écoute du magazine hebdomadaire de l'économie sur VOA Afrique. Les dirigeants politiques africains et les grandes entreprises doivent promouvoir de nouveaux modèles de croissance fondés sur le renforcement du pouvoir d'agir des jeunes. Le développement humain et les droits humains ont déclaré Amnesty International et l'Open Society Initiative for Southern Africa, en français, l'initiative pour une société ouverte en Afrique australe. Deux ONG, donc, qui ont lancé cet appel à l'occasion du lancement de leur nouvelle campagne à Johannesburg intitulée Africa not for sale, l'Afrique n'est pas à vendre. Une table ronde a rassemblé une vingtaine de jeunes défenseurs des droits humains venus de toute l'Afrique à la bourse de Johannesburg pour dialoguer pendant deux jours sur la responsabilité des entreprises dans la vie sociale et économique de la jeunesse africaine. Pour plus de précisions, on écoute Alioune Tine, directeur pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à Amnesty International.
Il s'agit justement de proposer une alternative par rapport au modèle de croissance actuel qui développe la thèse vraiment d'une Afrique en plein essor, d'une Afrique où la croissance est là et que sur pratiquement les 10 premiers pays qui ont de la croissance, les 7 sont en Afrique. Or, cette émergence, elle est tout à fait trompeuse. parce que la jeunesse n'en profite pas. On peut même dire que ce sont les laissés pour compte de cette croissance, parce que 70% de la jeunesse africaine pratiquement vit avec moins de $2 par jour, ce qui est quand même extrêmement impressionnant par rapport quand même à un continent où il y a un véritable boom démographique, où pratiquement plus de 50% des jeunes ont moins de 18 ans. Donc c'est un véritable problème, un véritable cri du cœur pour que le développement et que la croissance s'appuient également sur des critères qui sont justement les droits humains, les ressources humaines, le développement durable. Il propose une alternative qui prenne en compte les intérêts de la jeunesse africaine. C'est extrêmement important et ce cri du cœur aussi vient au moment où nous avons deux types de jeunesse. Nous avons une jeunesse qui combat, qui émerge avec les Yanama, les balais citoyens qui sont retrouvés là-bas et les jeunes de l'Afrique du Sud, des jeunes également qui s'enrôlent dans le djihadisme. Il est très important aujourd'hui, de mon point de vue, que le monde entende les alertes lancées par cette jeunesse.
Monsieur Alioune, directeur pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, il était joint à Dakar, au Sénégal. Ici Washington, Camille Gros-Didier pour le magazine hebdomadaire de l'économie. De passage à Washington, Yéa Samaké, maire de Wélessé-Bougou au Mali, a évoqué à l'occasion d'une interview l'importance de l'agriculture pour aider les Maliens à sortir de la pauvreté. Monsieur Samaké, qui est également directeur exécutif de la fondation Empower Mali, une ONG qui donne priorité à l'éducation et à la mise en valeur des ressources agricoles, a discuté de ses derniers projets. La mobilisation d'investissements auprès des milieux d'affaires pour financer des tracteurs qui aideraient les agriculteurs à développer leur culture. Je lui laisse la parole.
Récemment, je suis à Bamako d'ailleurs pour inviter des investisseurs pour financer 40 tracteurs pour 40 villages. Et c'est à des fins économiques. Et ce n'est pas des dons, c'est un investissement avec des retours de 5%. Ici aux États-Unis, en ce moment, le retour sur l'investissement de l'argent liquide, c'est que 1%. Et moi, alors, on donne l'opportunité aux investisseurs américains. Un tracteur coûte $25,000 et il retourne avec 5%. Mais ça change complètement la vie de toute une communauté. Ces tracteurs sont donnés par village.
Et ça sera pour cultiver quoi?
Ça sera pour cultiver du coton, du maïs, du riz. Et puis le sésame que nous allons introduire comme culture vivrière aussi. Et donc toute la culture vivrière et la culture commerciale que les paysans vont. Mais je travaille en collaboration avec la CMDT et la Compagnie malienne de développement des textiles qui est l'acheteur de tous les produits de coton. Ce projet va permettre de faire de Wélessé-Bougou un modèle de succès économique où le paysan peut immédiatement se mettre de l'argent dans la poche. En 5 ans, ils épuisent le paiement de ces tracteurs. Donc, ce projet, je l'ai conçu en tant que candidat à l'élection présidentielle. J'avais prévu d'acheter 3500 tracteurs pour un coût de 7 milliards de francs CFA. J'allais mettre 5 tracteurs à la disposition de chaque commune. Le Mali a 703 communes. Donc, 3500 tracteurs pour 5 tracteurs par commune allait permettre au Mali d'éliminer complètement la faim dans notre pays et de projeter le Mali comme le grenier de l'Afrique de l'Ouest, avec tout l'office du Niger que nous avons et avec toute la terre cultivable que le Mali a. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il y ait la faim dans ce pays-là.
Il suffit d'orienter les ressources.
Absolument.
Et
absolument.
La main-d'œuvre, que la main-d'œuvre n'aille pas grossir les villes, mais plutôt qu'elle reste dans les campagnes.
Absolument, absolument.
Où, après tout, il y a moins de stress et on a peut-être davantage d'avenir.
Vous l'avez bien compris, parce que chaque tracteur crée de l'emploi.
Oui. Parce qu'il faut récolter, il faut emmagasiner, il faut stocker.
Tout ça.
Il faut vendre, il faut acheminer.
Absolument. Non seulement ça infuse une bonne dose de stamina dans l'économie locale, oui, mais aussi dans l'économie nationale, les gens sont mis dans une position d'être de meilleurs payeurs de taxes, d'être de meilleurs citoyens. Donc ils contribuent non seulement au développement local, mais au développement national en même temps.
Ils sont non seulement de meilleurs payeurs d'impôts, mais ils sont aussi de meilleurs consommateurs, parce qu'une fois qu'ils ont de l'argent en poche, ben, ils peuvent le dépenser. Ils peuvent faire tourner, en fait, beaucoup plus que leur propre champ.
Voilà. Donc, en infusant ces nouvelles sources de revenus, ça nous permet de faire en sorte que le paysan peut s'offrir une Mercedes pour aller au champ. Ce n'est plus seulement le domaine du commerçant ou, dans le cas des pays africains, du fonctionnaire. Aujourd'hui, il faut que nous réorientons l'effort de l'État, mais aussi l'effort des gouvernements locaux vers la mécanisation de l'agriculture, vers aussi la création d'agrobusiness, parce que l'agriculture occupe 70% des Maliens. Pour un projet économique d'envergure, il faut toucher la vie de ces agriculteurs. Voilà pourquoi nous avons conçu ce projet, pour simplement briser le cycle de pauvreté.
Monsieur Yéa Samake, maire de Wélessé Bougou au Mali. Voilà, ainsi s'achève cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Gros-Didier, qui vous remercie de l'avoir suivi sur VOA Afrique.